C'est génial, hein, c'est le psychobilly du groupe américain Révérend Horton Heat, sixième choix, Théo Manuel, qui me fait le plaisir d'être invité de cette émission, et qui me fait le plaisir aussi avec sa programmation musicale faite d'ADN Blues, parce que la musique qu'on aime, elle vient de là. Alors on va poursuivre, et oui, déjà avec le groupe instrumental dont tu as parlé tout à l'heure, Hermanos Gutiérrez. Tu nous emmènes où avec ce titre, avec le titre Pueblo Man?
Bah, purement dans le désert là, mais alors pas forcément US, hein, mais moi je me suis baladé aussi dans les déserts du Chili, et les Gutiérrez, ils sont de l'Équateur, je crois, ils vivent en Suisse, et mais leur musique, elle est atmosphérique, quoi. T'as l'impression d'être assis dans le désert le jour ou la nuit, et puis t'écoutes ça, et puis tu as tout le décor qui défile devant tes yeux, quoi. Enfin moi ça me fait cet effet là, et donc je vous emmène dans les déserts. Dans les déserts, hein, dans tous les déserts en fait, mais ça peut être aussi en Afrique, ça peut être, voilà. Et je trouve que vraiment, c'est une musique qui retranscrit ça tellement bien. Ils le font tellement bien, il a ces delays, ces reverbs et ces guitares slide ou twang, encore une fois, ça marche trop bien sur... c'est vraiment tout ce qu'il faut pour nous faire rêver de ces étendues immenses et désertiques.
Instrumental de musique latine formé en 2015 à Zurich par les frères équatoriano-suisses Alejandro Esteban Gutiérrez dans cette émission aux côtés de Théo Manuel. Alors le blues, c'est la voix des sans-voix, hein, là où l'Amérique de Trump cherche à la baïonner. C'est un problème de société que tu as envie d'aborder dans tes chansons, de prendre en charge cette situation très préoccupante aux USA, hein.
Ouais, enfin c'est... ça a tellement été... si tu veux, j'ai pas envie de me servir de ça, mais tu peux pas... Enfin, il y a un moment, tu peux pas te taire non plus, quoi. Et c'est terrible ce qui se passe là-bas et ailleurs. Hein, mais là-bas, ce qui s'est passé depuis l'élection de Trump, là, c'est terrible, quoi. Et enfin, c'est d'autant plus terrible que bah, je pense aux gens qui sont là-bas, ce qu'ils vivent au quotidien. Enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est les années 30 dans l'Allemagne nazie, en Italie et ailleurs, quoi. On n'imagine pas ça, mais c'est ce qui se passe. Hein. Et moi, je t'avoue que j'aime vraiment beaucoup ce pays, pas forcément pour les gens qui ont voté pour Trump, évidemment, mais il y a plein de, enfin, le pays est magnifique, il y a plein de trucs super, le cinéma, la musique, des gens formidables. Et je dois t'avouer que j'y suis allé beaucoup là-bas et j'étais très embêté par les douanes au moins trois fois et ça fait froid dans le dos quoi parce que tu sais pas ce qu'ils vont faire de toi, tu sais pas où tu vas finir et donc là évidemment je vais pas y foutre les pieds avant un moment mais quand je pense à ces gens là qu'on arrête dans la rue là alors qu'ils sont américains, ils ont la carte de séjour, ils peuvent travailler et puis on les envoie dans des endroits, ils savent même pas où ils sont, enfin bref, c'est horrible. Donc oui, d'en parler, ça me semble normal. Après encore une fois, on en a tellement parlé que moi je veux pas me servir de ça mais j'ai choisi un titre, je pense que c'est à ça que tu voulais venir.
Ouais, évidemment. Hein.
De Springsteen, moi j'adore Springsteen et je trouve que c'est vraiment un... Depuis, tu vois, c'est pareil, on parlait de Strummer, mais il y a Bruce Springsteen aussi qui est là, quoi. Et quand j'ai entendu son morceau, là, j'ai dit, waouh. Si tu veux le morceau, il parle de lui-même, t'as pas besoin d'en rajouter, tu diffuses ça, et puis t'as tout dit, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais oui, c'est terrible. Et puis Bruce, il le fait. Enfin, il est là, quoi. Il y a De Niro aussi, ils sont nombreux, hein, mais à résister, mais il faut parler de ces gens qui résistent. Et ce morceau de Bruce, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau, quoi.
Et il s'appelle The Streets of Minneapolis, Bruce Springsteen.
Forcément, forcément.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Cette voix qui s'élève en ce moment contre l'Amérique de Trump, c'était celle de Bruce Springsteen avec le titre The Streets of Minneapolis, chanson qui proteste contre ICE et la politique ultra-répressive de l'agent orange. C'était l'avant-dernier choix, et oui, déjà, parce que ça passe vite, de Théo Manuel, qui, je vous le rappelle, est mon invité dans l'émission Tour de Piste sur Principe Actif. Est-ce que l'enregistrement d'un neuvième album génère chez toi toujours autant de magie, de passion, de prise de risque que le premier ?
Oui, oui, peut-être plus encore. Peut-être plus encore parce que bah, le premier, c'est le premier. Tu te dis, bon, forcément, tu as envie de bien faire, mais tu prends des risques, mais qui ne sont pas les mêmes. Et puis le deuxième, tu te dis, bah, faut faire mieux que le premier, donc t'imagines le neuvième. Donc à chaque fois, tu essaies de faire un peu mieux. Et tu sais jamais si ce que tu as fait est bien ou pas. Enfin, moi, je pense qu'on est nombreux dans ce cas, voir tous les gens qui font des albums, qui écrivent des chansons, ils pensent la même chose. Et oui, bah, le neuvième, en fait, j'étais dans l'écriture, je faisais mes maquettes tranquillement dans mon sous-sol là, et puis comme pour les autres, je savais pas si c'était bien, pas bien. Alors il y a des morceaux qui ont été faits assez vite, je pense à Morland ou des choses comme ça, c'est arrivé très vite. Et puis il y en a d'autres où j'ai galéré. Ouais, il y en a deux que j'ai fait, défait, effacé complètement, refait complètement. C'est pour vous, Enel Alma, parce que c'est un truc très, très personnel. J'arrivais pas à attraper vraiment le. Enfin, j'étais pas content. Donc, je recommençais. C'était pas les mêmes rythmes. Enfin, j'ai vraiment cassé le truc et refait des versions dans tous les sens. Jusqu'à ce que j'ai laissé sur l'album. Et l'autre, le deuxième, où vraiment, pareil, j'ai fait, défait, refait, c'est, Hope is better than dope. Musicalement, il y avait un truc qui collait pas, et donc j'ai changé des tonneries d'accords, je suis passé en mineur, j'ai modifié des choses, remodifié, changé les riffs, enfin. Et je t'avoue que il y a trois morceaux, même quatre, que j'ai failli pas mettre dessus et puis attendre d'en avoir d'autres pour être satisfait. Et les quatre en question, c'est Fall, c'est Paul Voynel Alma, c'est Hope is Better Than Dope, et c'est la reprise de Muddy Waters. Et heureusement que j'ai mes musiciens avec moi qui me rassurent à chaque fois, qui me disent, mais non, t'es fou, ça, c'est bien, ça. Et voilà. Donc, on a fini par admettre que ce qu'on allait garder, c'est ces 10 morceaux-là et qu'on allait les enregistrer comme ça. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, et même encore aujourd'hui, je suis pas sûr de ce que j'ai fait et réussi complètement, mais c'est normal, ça.
Et on va se quitter, comme promis, donc en musique avec Paul Voynel Alma de Théo Manuel, hein, qui était mon invité ce soir dans l'émission Tour de Piste sur la radio d'Evreux Principe Actif. Dans 15 jours, c'est-à-dire le 20 mai à 20h, mon invité ce sera l'artiste folk Marianne Perrudin. Un grand merci, Manu, d'avoir été mon invité, c'était chouette.
C'est moi, c'est sympa de m'inviter, et puis qu'on puisse reparler de musique, un sujet passionnant, n'est-ce pas ?
Absolument, et inépuisable. Je te souhaite la belle continuation, hein, que tu mérites sur les chemins sinueux que tu as choisi d'emprunter. Bonne soirée à toutes et à tous, ouais. À dans 15 jours. Salut. Et
merci, ouais. Laurent. À bientôt.
Merci à toi, Manu.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Mireille, tu es venue en tramway ?
Eh bah, pas tout à fait.
Non, mais comment il s'appelait le tramway ?
Ma belle auto, et, mais c'est pas, j'ai pas pris le tramway nommé Désir.
Ah, dommage.
Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être deviné, nous allons vous parler de Thomas Lanier Williams III, dit Tennessee Williams. Voilà.
C'est plus simple.
Voilà, vous connaissez sûrement plus sous ce nom-là.
Oui.
Alors, Tennessee Williams, il est né le 26 mars 1911 à Columbus. Et donc, c'est un dramaturge et écrivain américain dont de nombreuses œuvres ont été portées au cinéma. Donc, aux côtés d'Eugene O'Neill et d'Arthur Miller, il est considéré comme l'un des dramaturges les plus importants du XXe siècle aux États-Unis.
Oui, un tout petit mot sur Eugene O'Neill, qui est décédé en 1953, mais qui a eu le prix Nobel de littérature en 1936 et dont une des pièces les plus célèbres s'intitulait « Le long voyage vers la nuit ». Quant à Arthur Miller, bah lui, il a disparu en 2005. Alors, que citer de lui ? Les sorcières de Salem, peut-être ? Et Les Désaxés, le fameux film de John Huston, adaptation de la nouvelle « The Misfits ». Avec qui, dans les rôles principaux, Mireille ?
Marilyn Monroe et Clark Gable.
Voilà.
Et Montgomery Clift.
C'est bien, tu connais tes classiques.
Alors, ce pseudonyme de Tennessee, il est dû au surnom qui lui a été attribué par ses copains à l'université. Donc, sa famille compte des ancêtres anglais, gallois et huguenots. Il a une sœur aînée, Rose Isabelle Williams, et un frère cadet, Walter Decking Williams. Il passe son enfance avec sa mère Edwina et sa sœur Rose, qu'il adore, chez son grand-père, qui est pasteur, et son apaisante grand-mère, Rose. Quant à son père, Cornelius William, qu'il déteste, c'est un voyageur de commerce alcoolique et joueur de poker, mais qui est presque toujours absent.
Oui, c'était beaucoup plus tendre côté maternel, hein, voilà, les origines, pas... que côté paternel.
Donc... En fait, Tennessee, il est atteint de la diphtérie à l'âge de 5 ans et donc il va occuper son temps à écrire des poèmes et des scénettes sous les encouragements de sa sœur. Il reçoit d'ailleurs sa première machine à écrire pour son 12e anniversaire. Et en 1918, son père emmène toute la famille à Saint-Louis dans le Missouri où il a décroché un emploi dans une fabrique de chaussures. Et Cornelius William regardait l'activité de son fils malade avec vraiment dédain et ne l'encourageait pas du tout, hein, contrairement au reste de la famille. Et de nombreux critiques et historiens notent que Williams a trouvé l'inspiration pour la plus grande partie de son œuvre dans sa propre famille. Alors les efforts de sa mère pour trouver une meilleure maison possible pour la famille et le comportement bruyant de son père vont obliger la famille à déménager de nombreuses fois.
Voilà, oui, c'est un peu le boulet le père, hein,
voilà,
quand même.
Voilà, c'est ça, donc pas très facile.
Non.
Alors en 1928, il va recevoir le troisième prix pour un essai publié dans Small Set intitulé « Can a good wife be a good sport ?» La même année, il réalise un voyage en Europe avec son grand-père maternel, voyage pendant lequel il raconte qu'il vit une triple révélation. Révélation de son homosexualité lors d'une allusion d'un officier de bord sur le navire qu'il conduit en Europe, révélation intellectuelle lors d'une promenade sur un boulevard parisien et une révélation mystique dans la cathédrale de Cologne. En 1929, William entre à l'université du Missouri, à Columbia, où il suit des études de journalisme.
Oui, grâce à ce grand-père pasteur, finalement, il a quand même eu une éducation assez complète, précoce. Hein. Voyager en Europe à l'époque, ce n'était pas évident. Et d'ailleurs, toute sa vie, il confortera ce goût pour l'Europe en allant en France régulièrement. Mmh. En Italie, il y allait tous les ans, c'était son péché mignon.
Ouais, puis surtout qu'après il a eu un ami pendant fort longtemps, voilà, qui était
son compagnon,
qui était d'origine italienne.
Principal, exactement.
Ouais. Donc je vous propose d'écouter maintenant donc une première nouvelle qui a été publiée en 1930 dans la revue The Columbus et donc qui s'appelle Un sac de dames en perles.
Par une froide soirée de novembre, un petit homme marchait péniblement le long d'une allée, portant sur ses épaules un énorme sac prêt à craquer. Il avançait d'une démarche fugitive et empruntée, tel un vieux bâtard fatigué qui sent instinctivement que seule une extrême prudence peut le mettre à l'abri d'une agression. Cet homme ne vivait pas dans l'illégalité, il n'avait pas lieu de craindre d'être molesté par les forces de l'ordre. Et pourtant... Tout dans son comportement trahissait la culpabilité et la peur d'être reconnu. Il longeait les murs des garages comme s'il cherchait à se dissimuler dans l'ombre et évitait la lumière de quelques réverbères. À chaque fois qu'il croisait un passant, il baissait la tête et évitait son regard. Cette attitude n'était pas celle de la dureté ni de la hardiesse insolente de ses semblables. Il semblait accablé par un sentiment presque névrotique d'humilité et de honte. Depuis 15 ans, il était chiffonnier. Chaque jour, il suivait un trajet immuable à travers les allées d'un quartier résidentiel huppé, fouillant les poubelles à la recherche de vieilles chaussures, de divers objets de métal cassés et rouillés, de ballots d'étoffes sales et déchirés. Il revendait pour une misère le produit de ses fouilles aux marchands qui savaient tirer profit de ses camelotes. Cette activité lui serait apparue insupportablement fastidieuse s'il n'avait été soutenu durant ces 15 années par un fol espoir. L'espoir de découvrir un jour, parmi tous ses rebuts, un objet de grande valeur jeté par mégarde à la poubelle. Une bague ou une épingle de diamant, une montre de prix ou des boucles d'oreilles. Un bijou qui vaudrait une centaine de dollars, de quoi assouvir enfin tous ses rêves de mendiant. Certains soirs, son cœur avait battu très fort au scintillement d'un simple morceau de verre ou à la vue d'un bout de papier d'argent sur le rebord d'une poubelle. Et bien qu'il n'ait jamais rien trouvé encore que des débris de métal, de cuir ou d'étoffe sans valeur, l'espoir n'était pas mort en lui. Il s'était fait une règle impérative de suivre chaque jour son itinéraire jusqu'au bout. Et c'est pourquoi, ce soir-là, bien que son sac soit déjà bourré de tout ce qu'il pouvait contenir, il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir inspecté les derniers recoins du quartier. Les pieds et le dos douloureux, il allait péniblement d'une poubelle à l'autre, s'arrêtant parfois pour changer une des trouvailles déjà enfouies dans son sac contre une autre, qui lui semblait plus intéressante. Il tomba en arrêt devant l'une des poubelles, qui se trouvait entièrement coiffée d'un carton à chapeau mauve, rempli de papier d'emballage. Saisi d'une subite impulsion, il s'empara du carton pour en examiner le contenu. Son attention fut attirée par le bruit d'un objet lourd qui glissait sous ce tas de papier. Il souleva les papiers et au fond du carton à chapeau, il découvrit le trésor qu'il avait cherché durant 15 années. C'était un sac de dames en perles. Dans un premier mouvement d'avidité, il oublia toute prudence et les mains tremblantes, il allait s'emparer du sac. Juste à ce moment-là, il entendit une porte claquer. Il s'imposa alors d'examiner longuement le talon usé d'une vieille chaussure. Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine et sous l'émotion, la tête lui tournait. Un sac de dames en perles. Il entendit la porte se refermer. Il cessa de s'intéresser à cette vieille chaussure et, accroupi devant la poubelle, il plongea la main dans le carton à chapeau pour sentir à nouveau le sac de perles. Il caressa du bout des doigts la surface douce et fraîche de sa précieuse trouvaille, avec la délicatesse d'un séducteur circonspect qui caresse une femme dont il n'est pas sûr. Il examina encore les alentours et le fond des jardins, regardant tout autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait, puis, en un éclair, il s'empara du sac et le fourra dans la poche de son manteau. C'était fait, il tenait son trésor. Avec une nonchalance simulée, il reprit son gros sac sur l'épaule et commença à descendre tranquillement l'allée. Nul ne pouvait supposer qu'il avait trouvé ce jour-là autre chose qu'un carton rempli de vieux papiers et une vieille chaussure. Mais, dans sa poche, sa main étreignait fortement le sac de perles.